podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec mon ami Charles Ackman d'acquisition client et du sujet des équipes de vente. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Charles Ackman, PDG de Let Me Talk, une firme de marketing de croissance spécialisée dans la vente de formations high ticket en ligne. Entre autres, plus de 250 clients dans 6 pays, 20 millions de dollars générés par année pour ses clients. Tu as formé plus d'une centaine de propriétaires d'entreprises et de représentants des ventes. Super content d'être avec toi, Charles, aujourd'hui. D'abord, comment vas-tu?
Ben écoute, ça va super bien. Merci de m'avoir enfin sur le pivot.
C'est le voilà. Bien content. On a des horaires, je pense, quand même chargés des deux côtés, mais on est très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme l'introduction le disait, on va parler d'acquisition de clients profitables et bâtir une équipe de vente. Tu as une grande expérience là-dedans avec ton organisation, mais surtout d'enseigner tout ça aux organisations autour. Donc, on va essayer d'amener ça le plus possible dans un contexte de produits technologiques, produits numériques. Je pense que ça va être du bonbon, la discussion aujourd'hui.
Ça va être des bombes.
Voilà. Parlons d'abord de l'acquisition de clients profitables. Je pense que c'est important de se poser la question, qu'est-ce que de l'acquisition de clients profitables? Je te laisse donner ta définition de Charles de ton côté. Je rajoute avec la mienne par la suite. Le micro est à toi.
Oh, fantastique. Ben écoute, merci de me recevoir. Puis on va tout de suite embarquer dans le vif du sujet. Dans le fond, selon moi, l'acquisition profitable, vraiment, c'est que tu es en mesure... Non seulement, avec, mettons, vas-y, tu investis en pub ou avec des vendeurs ou peu importe, c'est que ton acquisition couvre le profit que ça génère, couvre le frais d'acquisition du prochain client. Fait qu'on va dire, j'acquéris un client, ben, ça me permet le profit de réinjecter puis ensuite couvrir l'acquisition d'un deuxième client et ainsi de suite. Comme ça, tu n'acquéris jamais un client à perte. Parce que, tu sais, des fois, il y a des compagnies, on va dire, que l'argent se fait 6 mois après ou c'est avec le MRR que les profits rentrent. Au final, je veux dire, tu fais tout le temps une acquisition à perte. Donc, si tu es capable de non seulement acquérir un client avec un profit dès la première entrée, mais en plus que tu puisses couvrir le coût d'acquisition lors du deuxième client qui rentre, ultimement, selon moi, ça, c'est ce qui est une acquisition client profitable.
Et c'est pas évident dans un contexte d'un produit technologique, souvent un SaaS ou ce que tu mentionnes, le MRR étant le Monthly Recurring Revenue, donc des dollars qu'on acquiert de manière récurrente. Souvent, on va se référer un petit peu à un ratio qui s'appelle le ratio CAC-LTV. On en parle dans le deuxième épisode du podcast, épisode numéro 2. Donc, le CAC est le coût d'acquisition du client sur son lifetime value, donc la valeur que le client va générer à travers le temps. Toi, Charles, de ton côté, ce que tu dis, ben pourquoi pas plutôt essayer de viser, de le rentabiliser dès le départ quand on va le chercher pour qu'on puisse reprendre cet argent-là et à ce moment-là, aller chercher un client futur devant nous. Là, c'est un peu ce que toi, tu proposes comme concept de vraiment aller chercher des clients de manière profitable dès le départ. Là, c'est bien ça.
Absolument. Puis, je veux dire, souvent, le plus gros problème que je vois, c'est pas nécessairement dans les compagnies SaaS, mais un peu dans n'importe quel type de compagnie, c'est qu'ils... De un, leur acquisition client n'est pas profitable, mais de deux, ils savent même pas si leur acquisition fait du sens, leur coût d'acquisition fait du sens ou pas. Ils vont un peu comme à l'aveuglette, puis au final, après ça, ils réalisent 6 mois plus tard qu'ils sont complètement dans le rouge, puis ils savent pas pourquoi. Fait que vraiment, avoir une acquisition profitable règle ce problème-là.
Et je sors la définition de d'acquisition client profitable de notre fameuse amie ChatGPT pour rebrasser un petit peu tout ça. Mais après ça, je veux parler par contre de comment on réussit à vraiment calculer là, ce coût d'acquisition-là. Donc, selon notre ami ChatGPT, qu'est-ce que de l'acquisition de clients profitables? Donc, l'acquisition de clients rentables se réfère à l'ensemble des stratégies et tactiques marketing mises en place pour attirer, convertir, fidéliser des clients qui génèrent des revenus durables et rentables pour l'entreprise. Donc, il y a une légère différence entre ce que toi, exemple, t'apportes, ce que moi, ma définition serait, et ce que ChatGPT dit de l'autre côté. Mais tout ça, au bout de la ligne, c'est aussi bien avoir et d'être très rentable dès le départ. Puis, à ce moment-là, la croissance, elle est beaucoup plus facile à accéder ou à excusez-moi l'expression en anglais, à fioler à ce moment-là. Bien, ce qui m'amène à la question, comment, Charles, de ton côté, tu proposes de se structurer pour être capable de bien calculer son coût d'acquisition?
C'est une super bonne question. T'sais, en tant que tel, tout dépend à la base des canaux d'acquisition, right? Je pense pas que nécessairement il y a un one size fits all quand il y a le temps d'acquérir des clients. Il y en a qui vont le faire avec des représentants des ventes cold call, du outbound prospecting. Ils vont faire, mettons, ils vont texter des gens sur Instagram, LinkedIn. Autant qu'il y en a qui vont le faire par courriel, right? Fait que, mettons, ça, c'est une façon d'acquérir des clients. Du cold outbound. Autant qu'il y en a qui vont le faire, mettons, ils vont le faire avec du warm inbound. Ils vont utiliser de la publicité, leurs réseaux sociaux organiques. Ils vont utiliser des funnels de publicité en ligne. Fait qu'il y a tellement de différentes façons d'acquérir des clients. Fait que, en tant que tel, comment est-ce qu'on calcule un peu c'est quoi une acquisition profitable à la base? Ben, si tu regardes, est-ce que l'argent que je collecte upfront est supérieur à ce que j'ai investi en temps, en salaire, en publicité, en logiciel, en XYZ pour justement aller chercher ce client-là. Si justement je fais un profit, ça c'est ma théorie, si je suis capable de faire un profit par-dessus ça qui couvre l'acquisition client du deuxième client, là j'ai quelque chose qui est justement qui est très, très, très scalable. Fait que là, après ça, je peux mettre la pédale sur le gaz puis je peux scaler mon système d'acquisition client.
Et selon toi, est-ce que tu calcules plus le coût d'acquisition brut ou le coût d'acquisition net? Puis je fais une parenthèse de ma perception de chacun de ces termes-là. On parle, exemple, d'acquérir un client par une publicité sur Google AdWords. On paye le dollar pour aller chercher la personne. Ça coûte 5 personnes pour la faire rentrer dans notre funnel d'acquisition. On en convertit 10%. Ça nous coûte 50$ pour aller le chercher. J'appelle ça un petit peu le coût brut parce qu'en arrière de ça, il y a eu le coût de la main-d'œuvre pour gérer cette campagne-là. Il y a eu les différentes optimisations. Donc, est-ce que tu, de ton côté, vous travaillez plus sur le brut de regarder seulement, exemple, le côté payant qu'on a sorti en publicité ou on propose également d'aller chercher la main-d'œuvre qui est en arrière, mais qui est pas toujours évident de prendre cet élément en compte parce qu'il y a un facteur de vélocité. Si on n'a pas beaucoup de vélocité, ça nous coûte très cher. Si on a une grande vélocité, ça réduit un peu ce qu'on appelle, de mon côté, les frais fixes, les frais humains, là. Comment toi tu perçois ça puis comment vous le calculez là avec vos clients?
Non, ben, c'est une super bonne question puis c'est bon de le mentionner. Je veux dire, au final, je veux dire, si mettons j'ai un petit volume, mettons on va dire je roule un petit budget de pub puis on va dire le propriétaire de la compagnie acquérit ses propres clients, right? Puis on va dire il se verse même pas de salaire, mais il a engagé une agence marketing à, on va dire frais fixes 5 000$ par mois pour gérer ce on va dire ces publicités là. Mais au final, s'il roule à peine de budget, c'est sûr qu'il sera pas profitable parce qu'au final le frais fixe vient tout gober les profits excédents qu'il aurait pu faire. Fait que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, je vais laisser certaines variables in or out, right? Fait que, mettons, souvent, moi, je vais calculer, OK, cool, ça m'a coûté combien en publicité, puis ça m'a coûté combien en frais des vendeurs, mettons. Souvent, parce que, puis ça, on va en parler plus tard, là, mais, tu sais, je veux dire, nous, on structure nos vendeurs pour qu'ils soient uniquement en commission. OK? Fait que c'est beaucoup plus facile à tracker que s'il était salaire plus commission. On va y revenir plus tard. Mais pour ce qui est de voir c'est quoi le profit de l'acquisition en tant que tel, nous, c'est surtout sur ça qu'on vient tracker. Après ça, mettons le coût de la main-d'œuvre pour gérer les campagnes ou mettons le coût de production à l'arrière pour le fulfillment, vu que ça varie tellement d'entreprise en entreprise, c'est plus tough. Ça rajoute beaucoup de complications. Mais au final, si tu veux un calcul le plus accurate possible, là, c'est sûr que tu veux mettre ça en... Tu veux rajouter ces genres de variables-là dans ton calcul.
Donc, au début, on essaie de pas trop se casser la tête, de rester plus proche du brut, de pas trop mettre de variables. Au fur et à mesure qu'on prend de la croissance, de la vélocité, on rentre de plus en plus de variables dans nos tableaux de bord ou dans nos calculs pour être capable d'arriver à un chiffre beaucoup plus précis de coût d'acquisition client en cours de route.
Absolument.
Donc, il y a un point qui est important, par contre. Si on veut aller chercher des clients de manière profitable, il y a le premier point, je pense, le plus important, c'est de réfléchir à la question, est-ce qu'on a une bonne offre, là? C'est quoi une bonne offre, mais est-ce qu'on a une bonne offre? Je pense que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, Charles.
Ben, 100%, tu sais, puis au final, c'est là que souvent je vois tellement de propriétaires d'entreprises dans toutes les industries possibles. C'est souvent là qu'ils se plantent, en fait. Ce qui arrive, c'est que ils vont rouler de la pub ou ils vont je sais pas moi, ils vont proposer, ils vont aller solliciter des gens pour leur produit ou leur service, mais au final ce qui arrive, c'est qu'ils se font rejeter ou les publicités performent pas comme ils s'attendaient, puis ils vont tout le temps mettre le blâme sur c'est ma pub qui est pas bonne, ou c'est ma campagne qui est pas bonne, ou c'est mon image qui fonctionne pas, ou ma vidéo de promo que j'ai filmée qui est pas bonne. Quand au final, la majorité du temps, puis ça je l'ai vu à travers avoir travaillé avec des centaines de compagnies, c'est souvent leur offre n'est pas un fit pour un marché à froid. Fait, ils ont réussi à valider leur offre au travers des références, des leads ou des clients qui étaient très organiques, qui venaient justement, qui avaient été nurture via leur contenu, ou que justement ça fait longtemps qu'ils sont clients puis ils se font upsell. Puis au final, selon eux, cette offre-là est rendue bonne à vendre au grand public, puis à rouler de la publicité à des gens qui ont jamais entendu parler d'eux. C'est là le problème au final, c'est que ils n'ont pas bien validé leur offre en fonction du bon marché. Fait qu'après ça, ils lancent le produit qui est souvent, l'offre va être très similaire un peu à d'autres personnes. Fait qu'au final, ils embarquent dans un océan rouge, puis ils n'ont pas leur petit océan bleu à eux-mêmes, puis c'est là qu'ils se plantent. Fait que là, leurs coûts d'acquisition sont beaucoup plus élevés, ou leur pub à l'accroche pas, ou leurs vendeurs sont pas capables de sortir des arguments assez convaincants pour être capables de closer leur deal. Puis au final, si l'offre en tant que telle était un bon product market fit pour un cold audience, une audience à froid, au final, ça aurait tout changé. Puis on le fait le calcul aussi, où ce qu'on on regarde, mettons, on fait des comparatifs entre une offre un peu plus style commodity, où ce que c'est une offre typique comme toutes les autres, versus une offre plus style irrésistible. Puis normalement, non seulement ton coût d'acquisition va être beaucoup mieux, mais aussi tout ce qui va être le fulfillment dans le back-end est beaucoup plus streamlined. Les profits, autant au niveau de l'acquisition que le fulfillment, c'est incomparable. C'est 5 à 10 fois plus élevé normalement à cause de cette offre irrésistible.
Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et dev2co.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2co.com, donc D-E-V, le chiffre 2, C-E-O.com, ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. J'aime beaucoup ton concept de séparer notre partie acquisition de clients pour un marché à froid, puis un marché à chaud, ou un marché warm, parfois qu'on appelle en anglais. C'est vraiment intéressant, surtout dans le concept, dans le cadre d'un développement d'un produit technologique ou numérique. Souvent, on en parlait avec les gens autour de nous, puis là, les gens vont dire oui, oui, oui. On en parle à d'autres mondes qui connaissent d'autres mondes. Ils disent oui, mais au final, après ça, quand on essaie d'aller chercher un stade de croissance, puis de trouver un canal d'acquisition client qui est rentable, qui est profitable, qu'on peut aller chercher du scale, donc de la croissance, c'est là souvent que ça va venir coincer. Fait que j'adore ton concept, puis je pense que c'est une des choses aujourd'hui que je vais retenir le plus, que faut faire attention. Dans notre acquisition de clients, il y a vraiment deux choses complètement séparées, le warm et le chaud, et le froid, c'est totalement différent. Puis est-ce que notre Absolument. Offre qu'on a présentement en main aujourd'hui répond au marché à froid? Parce que sans être capable de répondre au marché à froid, c'est super difficile d'aller chercher de la croissance rapide à ce moment-là. C'est un petit peu ça que tu mentionnes, non?
Ben c'est ça, parce que ultimement, tu sais, je veux dire, un marché à froid, si tu as un produit, okay, que ce soit un service, un SaaS, un programme de coaching, peu importe, si ton produit en tant que tel, il est capable de se vendre à un marché qu'il ne connaît même pas, OK? Fait qu'ils voient une pub, ils se font un peu informer sur ton produit à peine, ils embarquent sur un appel de vente où ils vont direct sur une page transaction et achète. Je veux dire, tes délais de vente vont être beaucoup moins longs, de un. De deux, tu vas être en mesure vraiment de... Si tu vois que, mettons, pour chaque dollar que tu mets en pub, t'es capable d'en faire 3, 4, 5 complètement à froid, tu réinjectes tout cet argent-là après ça directement dans le même système d'acquisition client. Au final, ton growth, c'est incomparable versus juste tout le temps vendre à des références puis les tout nurture pendant des mois et des mois. Je veux dire, au final, dès que tu atteins un cold market fit offer, c'est ça décolle.
Puis il y a un autre concept, je pense, qu'il faut intégrer dans la réflexion pour ceux qui nous écoutent, c'est que dans le développement d'un produit, on a une phase d'exploration de notre PMF, notre Product Market Fit, donc à qui on parle, à qui on résout vraiment un problème, est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer. Donc, dans une phase de marketing et d'acquisition client, je pense qu'il y a deux stades. Il y a le premier stade où on essaie de trouver le bon canal, le bon Product Market Fit, puis à un moment donné, on tombe vraiment sur la bonne audience, avec le bon message, avec le bon canal, puis après ça, il faut aller chercher une croissance, puis c'est là qu'on peut, comme tu dis, de reprendre cet argent-là, de la réinvestir, soit mettre de notre propre argent pour accélérer cette croissance-là ou aller chercher de la monnaie extérieure, donc de l'argent de financiers comme des venture, des VC dans le fond. Donc, il y a deux phases jusqu'à du début qui est super difficile jusqu'à son product market fit, puis après ça, la phase de scale est souvent un petit peu plus plaisante à faire que la recherche initiale, souvent qu'on tourne en rond. Mais tout ça revient à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on crée de la valeur? Est-ce qu'il y a de la valeur perçue pour les gens qu'on rencontre à froid sur notre offre? Donc, ça revient beaucoup, beaucoup à ça pour être capable d'aller chercher de la clientèle de manière profitable au bout de la ligne.
Ben 100%. Puis tu sais, je veux dire, tu peux tellement être créatif quand tu crées une offre irrésistible. Je veux dire, au final, il y a tellement de gens, des fois, ils se mettent un peu dans une boîte et ils se disent, bon, ça va être ça mon produit. Mais au final, je veux dire, je vais te donner un parfait exemple. Là. Tu peux prendre ton même produit, OK? Puis tu fais juste segmenter une petite partie de ce produit-là. Puis tu dis, ah, ben pour les 100 premiers qui s'inscrivent à XYZ produit, vous avez en bonus telle tranche du produit qui, à la base, faisait partie du produit, mais maintenant, ça fait plus partie du produit. Puis c'est un bonus. Puis au final, juste le fait qu'il y ait ce bonus-là, lors de l'achat, fait en sorte que la valeur perçue du produit est beaucoup plus élevée. Il y a tellement d'autres affaires comme juste la chose la plus banale, rajouter une garantie. Il y a plein de monde au final que ils ont un super bon produit, ils voient qu'ils ont un taux de réussite de 90% et plus avec leur produit, puis leurs clients leur font des louanges, mais qu'ils rajoutent pas cette garantie-là. Une garantie à la base, puis ça, je veux dire, tu fais les maths les plus basiques là, sur n'importe quel type de produit, ça a été prouvé que ça va augmenter tes ventes brut de 30%, OK? Puis mettons, normalement, ça va doubler par contre la quantité de remboursement que tu vas avoir. Fait que mettons, on va dire que tu as un 5% de taux de remboursement quand tu n'avais pas de garantie, puis maintenant, tu en as 10% quand tu as une garantie. Au final, tu fais les maths, si tu as sur 100 ventes, mettons, à la base, ben ça te fait 130 ventes moins 10% de remboursement, ça te fait 117 ventes versus ton 95 ventes initial sans garantie, au final, au net. Fait qu'au net, juste grâce à une garantie, même si tu as eu plus de remboursement, tu as augmenté tes ventes de 23% juste à cause d'une garantie. Puis le monde, la majorité du monde le font juste pas.
C'est tellement brillant ce que tu dis là, puis c'est prouvable effectivement au niveau statistique. Je fais une référence à un livre qu'un coach m'a introduit il y a à peu près 2 ans de ça qui s'appelle Confession of the Pricing Man. Et le nom de l'auteur est Herman Simon, qui a une entreprise juste spécialisée dans comment optimiser ses prix et réussir à vendre plus et avoir une plus grande valeur perçue. Et vous allez retrouver dans ce livre-là des exemples qui se rallient beaucoup à ce que Charles vient de mentionner, dont un concept qui est assez hallucinant, qu'on a tous été, je dirais peut-être pas nécessairement victime, mais qu'on a tous tombé un peu dans le panneau au bout de la ligne, qui est le concept du « decoy effect ». Et pour ceux qui connaissent pas le concept du decoy effect, je pourrais donner le meilleur exemple. Quand vous allez au cinéma, ou si vous êtes déjà allé au cinéma, le fameux concept du popcorn, où ce que le petit popcorn est à, là, je vais le mettre avec des prix d'inflation aujourd'hui, on va dire 7$ le petit popcorn. Le plus gros serait à 13$. Fait que logiquement, le moyen devrait être à 10. Mais les decoy effects, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre le moyen à 12$. Puis là, le monde va dire, mon Dieu, c'est juste 1$ de plus pour acheter un gros. Et la majorité des gens à ce moment-là vont s'en aller vers le choix du gros. Donc, ça augmente de beaucoup la facture moyenne. Ça augmente la perception de valeur pour la personne qui achète. Mais pourtant, c'est le même produit. C'est juste qu'on a joué avec des faits psychologiques dans notre prix qui va venir influencer vraiment le comportement d'achat du consommateur moyen. Et là, ça se rallie un petit peu à ça au final. Là, dans le fond, il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut aller ajouter pour donner une valeur perçue plus grande au consommateur. Et la garantie, comme tu dis, Charles, c'est quelque chose qui va vraiment donner un effet positif net pour l'entrepreneur qui veut vendre ses produits ou ses services. Là.
Absolument. Tu sais, puis je veux dire, ça, ce n'est que la surface au final de bâtir, tu sais, une belle offre au final. Je veux dire, un concept que je pense que toute l'audience ici devrait retenir, c'est que quand tu veux bâtir une offre irrésistible un peu, c'est que tu veux te positionner de un dans... Moi, j'aime beaucoup ça, me nicher. Right? Je veux dire, souvent, là, ça commence à devenir de plus en plus populaire là, avec des gros gars comme Alex Hormozy et d'autres personnes d'influence sur le marché qui en parlent de plus en plus. Mais je veux dire, c'est un concept souvent que les gens qui se partent souvent ils oublient, puis c'est plus que tu te niches, plus que tu vas être capable de d'avoir des bénéfices de ça. Right? Souvent les gens ont peur de perdre une clientèle ou de pas avoir une certaine part de marché parce qu'ils veulent pas aller plus nicher, mais c'est souvent ceux-là qui sont le plus nichés qui génèrent le plus de revenus puis plus de profits aussi. Si tu veux, je peux te donner un super bon exemple. Il y avait une firme de VC, justement, eux c'était hot le modèle d'affaires. Ce qu'ils faisaient, c'est que dans le fond, ils acquérissaient des compagnies qui valaient plus d'un milliard. Okay? C'était Vista Ventures. Okay? Puis eux, ce qu'ils faisaient, dans le fond, c'est que quand ils acquérissaient des compagnies qui valaient plus d'un milliard, il est triplé en 3 ans. Je sais pas si t'as déjà triplé incroyable. Un milliard, mais.
Incroyable.
Un million, c'est cute, mais tripler un milliard, c'est quand même pas pire. Fait que.
Puis incroyable.
Leur stratégie, c'était phénoménal. OK? C'est malade. Qu'est-ce qu'ils faisaient, dans le fond? C'est que dès que la compagnie était acquérée après qu'ils aient fait leur due diligence puis whatever, dans le fond, ils faisaient un méga sondage sur tous les anciens clients puis les current clients, les clients actuels. OK? Puis, dans le fond, un super gros sondage, là. Fait que tu demandais, tu sais, c'est quoi ton orientation sexuelle? C'était-tu plus de gauche, de droite? T'as voté pour qui dans la dernière élection? C'est quel type de, quelle pièce de contenu qui t'a fait réagir le plus venant de nous? C'était quoi ton problème avant de travailler avec nous? C'est quoi tes nouveaux problèmes maintenant qu'on a réglé ton premier problème? Puis, dans le fond, tu sais, ils compilaient une méga, méga base de données sur tous les anciens et current clients. Puis ensuite, ils jumelaient ça, dans le fond, cross-mergeaient les données entre ça puis les clients qui avaient duré le plus longtemps puis qui avaient payé le plus cher. Okay? Puis après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu que, mettons, 20% de toute leur clientèle, c'était eux qui ont contribué à 80% de tous les résultats, là, un petit Pareto pour le fun. Là. Puis ce que ça donnait, c'est qu'après ça, eux, ils coupaient tout le marketing message qui correspondait pas à ce 20% de cette clientèle-là. Fait que tout le fulfillment du service ou du produit, whatever, ils coupaient tout, sauf pour travailler pour ce 20%-là. Ils coupaient tous les vendeurs qui avaient pas rapport, ils coupaient toutes les, dans le fond, tout ce qui avait pas rapport à cette petite fraction de la clientèle, ils coupaient. Puis ils rebrandaient tout pour vendre juste à ce 20%-là. Puis il était juste avec cette stratégie-là, il triplait les compagnies en 3 ans.
C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'ils ont acquéri le CRM Pipe Drive, si ma mémoire est bonne, où ils ont investi, je pense, 300 ou 400 millions dernièrement et on voit que la vélocité de Pipe Drive s'est grandement améliorée, disons, au niveau des fonctionnalités puis de se rapprocher des clients. Donc, je ne serais pas surpris que ce soit effectivement ce fonds-là ou ce VC-là qui est derrière le beau succès de Pipe Drive. Bien intéressant là-dessus. Maintenant, je suggère que l'on parle de bâtir une équipe de vente efficace. Je pense que tu en as long à dire par rapport à ça.
Ben 100%. Écoute, par où commencer? on pourrait commencer par, écoute, au niveau du domaine des SaaS en tant que tel, je pense qu'il y en a long à dire là-dessus. Tu connais un peu mon opinion sur les vendeurs à salaire versus les vendeurs à commission uniquement, là.
Mais je pense que ça peut être un excellent morceau à discuter d'abord pour ce bout-là du podcast. Parle-nous un petit peu de ton opinion là-dessus. Là. Je pense que tu as une opinion très tranchée, très arrêtée là-dessus. Là.
Ben, t'sais, moi, j'ai tout fait. J'ai fait les vendeurs. J'ai fait une première essai avec des vendeurs à commission, puis je me suis planté solide. Après ça, j'ai géré une team de comme 10-20 personnes, tout à salaire, commission. J'ai flambé du cash. Puis après ça, j'ai retourné au modèle commission uniquement. Puis ça a été la meilleure chose que j'ai faite dans toutes les décisions que j'ai prises dans l'histoire de mes compagnies. Ça a été ça. Puis suite à ça, j'ai recommandé ça à tous mes autres clients. Puis ça a eu le même effet. Puis la raison, c'est juste parce que c'est la majorité des bons vendeurs que tu vas aller chercher préfèrent travailler uniquement en commission parce qu'ils aiment le défi. De deux, c'est parce qu'ils aussi sont rémunérés beaucoup plus en fonction de la valeur qu'ils vont apporter. Right? Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'un vendeur, ça c'est mon opinion en tant que tel, là, je vais peut-être froisser quelques personnes, mais un bon vendeur qui a grandement confiance en ses habiletés n'a pas besoin d'un salaire fixe ou d'une sécurité financière pour la majorité des industries. C'est sûr que si le cycle de vente il est 6 à 12 mois, là, c'est une autre game, mais pour la majeure partie des transactions en général, écoute, souvent, tu vas avoir des cycles de vente de 7 à 14 jours, même pour des produits qui sont plusieurs dizaines de milliers de dollars. Normalement, tu es capable d'avoir des cycles de vente assez courts si tu joues avec ton processus de vente. Fait qu'au final, un vrai vendeur qui a confiance en ses habiletés va préférer en fait 100% rémunéré à commission parce qu'au final, il va faire plus d'argent que s'il était uniquement un salaire plus une petite commission. C'est pour ça que tu es capable d'avoir des gars qui font 2, 3, 4, 500 000 $ par année dans certaines industries. they thrive on that, right?
Mais faut s'assurer par contre d'avoir une bonne offre irrésistible avant de pouvoir engager des représentants seulement en commission, parce que sinon les représentants resteront pas là. Donc faut avoir sa recette de vente déjà établie, son playbook clair, efficace, prouvé avec ce fameux guide là. Quand les représentants arrivent à commission, on dit ben gars, si tu suis cette recette là à la lettre, puis tu rajoutes un peu de magie de ta sauce secrète personnelle, ça va donner du résultat à ce moment-là qui est bénéfique pour tout le monde. Il faut qu'il y ait ces petits éléments-là, là, je pense, Charles. Sinon, ça peut être un peu un désastre.
Oh, absolument. Ben oui, c'était exactement ça. Mettons, ma première run avec des vendeurs à commission, j'avais aucun processus de vente établi. On n'avait pas un product market fit. On avait aucun lead qui rentrait. Right? Fait que là, tu dis à ces gars-là, « Hey, salut, work! » Ça marchera pas. Tu sais, fait, en tout, faut être réaliste aussi. Je veux dire, tu peux pas t'attendre à quelqu'un qui fait juste embarquer dans ta business sa commission uniquement si t'as pas déjà au moins une base d'établie que il peut travailler dessus. Right? À moins que tu trouves quelqu'un de très 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 dédié qui veut éventuellement devenir intrapreneur dans ta compagnie. Puis là, t'as un autre. Mettons, si on va dire le founder, il est plus développeur, puis il est moins, mettons, marketing et vente. Là, je veux dire. Ça, souvent, on va voir ça arriver, là. Mais oui, non, je suis 100% d'accord avec toi que si t'as pas au moins ces bases-là, ça va planter, là.
ça devient très difficile à ce moment-là. Puis je référais peut-être à deux ouvrages qui sont extrêmement intéressants, que tu as peut-être eu la chance de t'imprégner, Charles, de ton côté. Le premier, c'est le Sales Development Playbook. Vraiment une bible de comment réussir à aider à bâtir une équipe de vente, mais comprendre comment la manager, comment bâtir un peu les plans de commission, les plans de rémunération, mais surtout comment faire son playbook, qui est un peu la genèse de comment vendre dans l'organisation, puis d'avoir une recette qu'on peut dupliquer par la suite, mais surtout améliorer à travers le temps. Et un autre livre super intéressant qui vient des cofondateurs de HubSpot, qui est Sales Acceleration Formula, qui va parler justement comment réussir à trouver des habiletés uniques que les vendeurs peuvent avoir, mais surtout quelle habileté unique en tant qu'entreprise qu'on a besoin pour être sûr de bien appareiller ce qu'on a besoin comme habileté. Puis je vais donner un exemple d'habileté. Il y a des gens qui sont des très bons closers, donc de fermer la vente au final. Il y a des gens qui sont très bons pour créer une relation. Il y a des gens qui sont excellents pour faire des belles présentations, que le visuel est beau. Il y a des gens qui sont super bons pour, on aurait dit que tu es un ami en deux secondes avec eux. T'en as d'autres qui vont être très, 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 très structurés. Mais d'une compagnie à l'autre, je pense qu'il y a des habiletés uniques qui devraient être clairement identifiées dans le playbook, dans la recette de vente. Et je pense que d'embaucher et d'arrimer ses représentants avec ce set-là d'habiletés uniques, je m'excuse l'expression anglaise, mais peut aider là, à bâtir, je pense, une équipe de vente qui est profitable, qui est efficace au bout de la ligne. Et là, encore plus, ben, d'attirer des gens qui sont juste à commission, ça fait tout son sens quand on a tout ça mis en place, là, je pense.
Écoute, c'est drôle que tu m'en parles. C'est un de mes livres préférés au niveau de la vente que j'ai non seulement lu, mais j'ai étudié rigoureusement. Surtout au niveau, tu sais, les choses que j'ai plus retenues de ce livre-là, c'est aussi surtout le fait qu'ils traitent leur département de vente comme un département de coaching. Puis ils sont tellement axés sur... Parce que tu sais, à la base, je veux dire, le VP des ventes de chez HubSpot, c'était pas un vendeur, là, c'était un engineer du MIT. Fait qu'il a pris une approche ultra scientifique à son département de vente, qui était le contraire de la majorité des autres compagnies. Fait que quand j'ai lu ce livre-là, mon plus gros takeaway, c'était vraiment toute son approche à la formation de ses représentants de vente, mais aussi comment ils traquaient leur performance, right? Souvent, je vais voir ça surtout, c'est des erreurs d'un peu plus débutantes, mais tu sais, mettons, les compagnies vont pas nécessairement tracker toutes leurs metrics. Fait qu'ils vont pas savoir, mettons, le show-up rate des gens sur un appel. Ils vont pas savoir c'est quoi le closing rate de leur vendeur. Ils vont pas savoir un peu c'est quoi les taux de connexion avec un appel ou les taux de demos booked, right? Ils regardent pas un peu. Tu sais, ils vont juste assumer, ah ben, mon vendeur, il est pas bon. Mais là, après ça, si tu documentes chacune de tes métriques à la lettre, ce qui arrive, c'est que là, tu es capable de voir où les failles dans ton processus de vente. Puis tu peux coacher ton vendeur directement juste sur cette chose-là. Puis même créer aussi, tu sais, un peu comme qu'eux, ils faisaient. Puis ça, je le fais à l'interne, puis j'aime vraiment ça. Je fais des concours. Au lieu de faire juste des concours sur bon, qui ramène le plus d'argent dans la compagnie à chaque mois, je fais des concours sur les métriques que je cherche à améliorer. Fait que maintenant, je vois, on va dire, mes six gars, ils font pas de suivi. Ben là, je vais faire un concours de suivi. Celui qui fait le plus de suivi durant son mois puis qui va chercher le plus de vieux leads qui étaient dans notre pipeline, ben il gagne un prix, il gagne un bonus, il gagne ci.
vraiment intéressant concept que je pense que je vais te voler pour notre équipe chez OpenMind. Vraiment sharp. Et ça me fascine ce livre-là. Je trouve ça triste de pas me souvenir qui m'a référé ce livre-là. Normalement, je prends en note toutes les références de livres et j'arrive pas à retracer c'est qui. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui puis qui m'a référé ce livre-là, envoie-moi un petit message sur LinkedIn, s'il te plaît. Je te dois acheter un dîner, peu importe. Mais tout ça pour dire que on en a fait à chaque année chez OpenMind avec l'équipe de gestion. On essaie de prendre le livre qu'on pense qui va nous faire bouger vraiment vers notre objectif final. Cette année, c'est le livre justement de HubSpot, Sales Acceleration Formula. Et ce qui me fascine, c'est qu'on a un processus qu'on appelle le book club où on s'assoit avec les gens et qu'on fait un tour de table de voir c'est quoi nos meilleurs, en français, excusez-moi, graines de sagesse, mais wisdom seed en anglais. Et c'est hallucinant. À chaque fois que je parle avec quelqu'un de ce livre-là, il y a des choses qui ressortent, qui sont complètement différentes d'une personne à l'autre. Et ce que tu mentionnes là, Charles, présentement, il y a personne à date qui l'avait mentionné autour de la table. Et tu me le dis, tu fais, mon Dieu, c'est tellement wow. Donc, c'est un livre assez impressionnant, de rempli de sagesse. Puis, selon on en est rendu dans notre organisation, on va peut-être en sortir une cinquantaine de graines de sagesse. Alors que toi, de ton côté, t'en sors 50 autres différentes. Puis si vous écoutez puis vous le lisez, vous allez probablement en sortir autre chose de positif. Mais à date, tout le monde qui l'a lu ont été quand même assez impactés de manière intéressante puis de manière positive. Donc, on vous le recommande. J'ai aucune commission sur ce livre, je tiens à le dire. On va mettre par contre le lien dans les notes de l'épisode aujourd'hui pour votre pur bonheur de lecture. Donc, voilà.
Absolument. Non, je veux dire, écoute, pour vrai, je veux dire, la chose, je pense que comme beaucoup de fondateurs, des fois, ils oublient aussi, c'est que, tu sais, je veux dire, ils peuvent s'éduquer aussi sur ce genre de trucs-là. C'est sûr qu'il y en a qui, mettons, ils vont refuser de faire de la vente complètement parce qu'ils se disent qu'ils sont pas bons ou qu'ils aiment pas ça le faire. Mais au final, ce que j'ai remarqué beaucoup, parce que j'ai formé des gens qui étaient déjà bons en vente puis que je les ai amenés une coche de plus. Mais j'ai aussi amené des gens de 0 à 1. C'est un méchant défi, mais en même temps, tu sais, mettons, une madame de 40-50 ans qui n'a jamais fait ça de sa vie, qui elle faisait des chandelles artisanales chez eux, puis là, maintenant, je l'ai transformé en closer, puis elle est capable de faire un salaire de 6 chiffres par année. Puis ce que je remarque souvent, c'est que pour vrai, la vente en tant que telle, ce n'est qu'un framework qu'ils doivent apprendre, puis ensuite, ils font juste répéter. Si tu es capable de juste te pratiquer, tu le fais tout le temps. Au final, après ça, c'est là que la pratique rentre en jeu, puis c'est là que t'es capable de t'améliorer. Puis c'est de faire l'effort aussi de s'améliorer. Je veux dire, moi, mes premières années en vente, j'enregistrais tous mes appels Zoom, puis je les réécoutais. Un peu comme, tu sais, je veux dire, puis ça, c'est les athlètes font ça au basket, là. Ils enregistrent toute leur game, puis après ça, ils regardent c'est où ils se sont plantés, c'est où ils ont eu des bons coups, des mauvais coups. Ben c'est la même chose en vente. C'est juste la majorité du monde le font pas. Ils prennent pas le temps ou ils font pas l'effort de le faire. Mais juste te réécouter puis pratiquer certains endroits où ça s'est pas nécessairement bien passé, puis comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé, ben au final ça va faire toute la différence là.
J'appelle ça la fameuse stat du 1%, puis peut-être tu connais déjà Charles, mais ben de oui. S'améliorer 1% par jour.
100%.
Fait qu'à la fin de l'année, on est 37 fois meilleur qu'initial, vive les intérêts composés en pourcentage. Mais c'est un peu ça, tu sais, si on veut devenir au sommet de son art, c'est important de faire une rétroaction sur comment on agit, nos actions, puis les résultats qu'il y a au bout de la ligne, mais surtout d'apprendre en continu de ça pour s'élever vraiment là, au maximum du plein potentiel qu'on peut aller réaliser. Encore plus important en vente, là, de réécouter ses appels, d'avoir du feedback externe, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour arriver à être pleinement efficace et surtout à bâtir une équipe efficace là, au niveau des ventes. Moi, de mon côté, à chaque fois que j'ai la chance d'assister à un meeting de vente avec nos vendeurs ici chez OpenMind, généralement, il y a toujours un débriefing après, puis mes questions sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que tu penses qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Sur quoi tu peux t'améliorer? Puis après ça, on va travailler le savoir-être, le savoir-faire dans la rencontre, parce qu'il y a les deux qui sont importants pour créer une valeur perçue puis réelle. Donc, c'est généralement toujours une loupe de feedback qu'on va faire avec nos reps pour essayer toujours de les élever vers un succès toujours plus grand en avant de nous autres.
100%. Non, c'est solide.
Petit point avant de terminer, Charles, petit placement de produit, si tu veux vraiment bien expliquer l'entreprise, qu'est-ce que tu peux faire pour les gens qui nous écoutent, comment on peut te rejoindre, Charles, on t'écoute.
Ben écoute, dans le fond, nous vraiment, on est spécialisé dans la croissance des entreprises de formation high ticket en ligne. Fait que mettons, on va dire que tu t'aides les courtiers immobiliers à rajouter un 100 000 $ de commission par année en les formant. puis tu vends cette formation-là cher, ben, tu viens nous voir pour qu'on puisse justement t'amener dans les 100 000 et plus par mois grâce à des stratégies d'acquisition client avec la pub, des tunnels d'acquisition, puis des équipes de vente. Fait que vraiment, c'est avec ces trois différents piliers-là, dans le moment qu'on est capable de faire grossir des compagnies de formation en ligne, high ticket. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre, qui ont juste simplement des questions, qui veulent savoir si leur offre est un cold market fit ou pas, vous pouvez ajouter-moi sur Facebook ou abonnez-vous à mon Instagram, Charles Hackman, tout collé ensemble. Vous allez pouvoir voir tout mon contenu que je publie là. Sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir où ce que justement je fais des vidéos informatives sur la vente, les systèmes marketing, la publicité, un peu de tout, je dirais. Même affaire, Charles Hackman, tout collé ensemble. Vous pouvez pas le manquer.
Et si vous êtes sur TikTok, Instagram et compagnie, forte chance que vous avez vu Charles passer dans vos feeds. On faisait la blague hors d'onde tantôt que Charles est le futur Gary V du Québec. Je pense il va être présent de plus en plus sur tous les médias devant nous. Merci de ta générosité aujourd'hui pour discuter du sujet, Charles. Bien apprécié. On aura sûrement la chance de rediscuter ensemble sur d'autres podcasts devant nous.
Absolument.
Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Voici mon résumé de ce que je retiens de ma discussion avec Charles cette semaine. Premièrement, il y a moyen de maximiser ses ventes nettes grâce à l'ajout d'une garantie sur notre offre aux clients. On parle généralement de plus 30 % de ventes pour un coût double des remboursements. Donc, si nos remboursements initiaux sont faibles, généralement, la valeur nette sera grande. Deuxièmement, plus on est niché, plus on risque d'être capable d'atteindre une belle rentabilité lors de l'acquisition de nos clients. Troisièmement, songer fortement d'avoir des vendeurs à 100 % commission, mais ne pas oublier d'avoir d'abord et avant tout une recette de vente efficace et éprouvée avant d'activer cette possibilité-là. Et quatrièmement, le fameux livre Sales Acceleration Formula, dont Charles a sorti des éléments supplémentaires que j'avais pas captés dans ma première lecture, donc qui est une découverte très forte pour moi, à un parc qui est très fort cette année, donc je vous le recommande fortement, Sales Acceleration Formula. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage et votre abonnement. Donc, si cet épisode de podcast vous a plu, s'il vous plaît, aidez-nous en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind. À la semaine prochaine.